L'église, vous la connaissez depuis 50 ans, depuis plus, j'imagine. Est-ce que vous avez toujours été d'accord avec elle ?
Non. Non, mais là aussi, excusez-moi, on va faire 30 secondes de théologie, je vous promets pas plus. Pour un catholique, ce qui fait l'église, c'est la communion. Et comment se manifeste la communion ? C'est la capacité de réciter ensemble le même credo, qui est un symbole, je vous rappelle. Symbole de la foi, et non pas résumé de la foi. De réciter ensemble le credo. Deuxièmement, d'être capable de recevoir la communion de la main de son évêque propre. C'est-à-dire d'être en communion avec le responsable de ce part du peuple de Dieu, qui est le sacrement général. Et troisièmement, de reconnaître comme frères ceux qui ont en commun de passer par le carrefour de la charité, comme disait Paul VI, et qui définit le ministère de Pierre pour un catholique. Donc, dès lors qu'on est d'accord sur ces trois points, on est de l'Église catholique. Je reste, encore que je sache que l'Église catholique ne soit pas toute l'Église, qu'on soit bien d'accord. Donc, on n'a pas à être d'accord sur tout ce qui peut se dire, se prononcer, en fonction des courants d'influence, des lobbies qui veulent prendre le pouvoir, des événements. Comment voulez-vous traiter de la même façon ce qui se passe au fin fond d'une province du Japon avec ce qui se passe à Poitiers, pour garder mon diocèse? Les problèmes ne se posent pas de la même façon. Et on voudrait que les solutions soient les mêmes. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on a les solutions avant même d'entendre les questions. Ce qui est intéressant à noter. Bon. Donc le problème, ce n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est de savoir si on est en communion. Et la communion respecte les différences. Enfin, on ne demande pas à un homme d'être toujours d'accord avec sa femme. On lui demande de l'aimer. Eh ben pareil. Ne vriez, mais on confond les questions, là. Enfin, je veux dire, l'uniformité... l'Église ne fonctionne pas comme le Soviet suprême sous Staline. Voilà, rappelons les choses.
Elle vit, elle évolue.
Mais c'est évident. Ça serait morte. Ça serait embêtant.
Surtout pour vous ?
Oui, parce que je râle, mais je l'aime bien. Et puis j'ai fait de mon mieux pour la servir quand j'étais en fonction, puis encore maintenant.
C'est ça aussi, une foi que vous disiez tout à l'heure, une foi qui est la plus simple possible, c'est d'évoluer avec son Église, de râler parfois contre elle, mais de continuer d'évoluer avec elle, parce que finalement, il n'y a que comme ça qu'elle pourra vivre.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire ça, parce qu'il y a une chose qu'on ignore, et que, voilà, imaginez que je sois tyran, deux jours, pas plus, ça me lasserait, puis ça lasserait les autres. Je rendrai obligatoire l'étude de l'histoire de l'Église. Parce que tout ce qu'on a pu faire, c'est dedans. Toutes les différences, toutes les bêtises, tous les trucs géniaux, c'est dedans. Faut aller voir. C'est un énorme réservoir avec des choses horribles et des choses splendides. Ça donne du large, ça donne de l'air, ça donne de l'espace.
Est-ce que vous avez l'impression que l'on demande trop à l'Église ?
On ne lui demande pas pourquoi elle est faite. Vous savez, on lui demande d'apporter des solutions. Moi, je pense que l'essentiel, c'est deux ou trois questions qu'on se pose dans la vie. Parce qu'il y a plus dans les questions que dans les réponses. Les réponses passent, les questions restent. Et puis les questions, c'est est-ce que ma vie a de l'importance ? Comment je vais faire pour ne pas rater les quelques années que j'ai ? C'est ça les questions fondamentales. Et puis elles sont contemporaines et ne nous lâchent pas. C'est ces questions-là qu'il faut poser. Et on s'aperçoit que des gens qu'on qualifie d'irreligieux sont passionnés par ces questions-là.
J'imagine que parfois, justement, vous avez eu des dialogues avec des gens qui se disent athées ou qui ont envie de vous contrer en disant « vous êtes bien joli du haut de votre évêché de Poitiers. Vous le disiez dans une émission de télévision, plus de 200 kilomètres, hein, votre... j'allais dire le territoire, ça va vous plaire, tiens. » Mais évidemment, parmi tous ces gens-là, il y en a qui ont dû venir vers vous pour vous contrer, pour vous dire « je ne suis pas d'accord ». Et je pense que dans certains cas, les discussions vous ont passionné.
Ah, c'est évident. Alors ma réponse est oui, sans réserve. Cela étant, on peut transposer quelque chose d'évangélique là-dedans. Parce que cette question que vous posez, à mon avis, elle est très, très profonde. La distinction dans l'évangile, elle n'est pas entre bien et mal. Elle est entre ouverture et fermeture. Il y a des gens qui sont ouverts, mais qui sont des bandits. Il y a des gens qui sont des bandits qui sont fermés. Bon, idem pour les pharisiens et les publicains. Donc la question dans le dialogue avec l'irreligieux, celui qui se dit athée, gardons le mot, même s'il n'est pas bon, est-ce qu'il est ouvert ou fermé ? C'est-à-dire, est-ce que son être, ses questions, ouvrent sur son existence, sur l'enjeu de sa vie ? Et alors c'est absolument passionnant. Ou est-ce que c'est des questions de dictionnaire, où il y a des croyants du même style, qui savent tout, qui ont tout vu, qui ont tout compris, et qui vous questionnent rien que pour vous embêter ? Ça, c'est la fermeture. Donc, j'ai eu, avec des croyants et des non-croyants, avec des catholiques, des non-catholiques, avec énormément d'hommes et de femmes, d'anciens et de jeunes, des conversations avec des êtres d'ouverture absolument passionnantes et auxquels je dois en grande part d'être ce que je suis devenu.